Voilà.
Alors est-ce que l'un entre les deux ou bien est-ce que
c'est exactement comme vous voulez.
Ouais.
Soit vous faites là l'exercice de suite, je vais faire une sur deux, une pour chaque.
C'est bien aussi.
C'est d'ailleurs évidemment le thème commun entre les deux, c'est que ce sont des éléments qui sont extérieurs à la logique quantifiée. Et économique, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, quantifié, financier, mais qui sont extérieurs de plusieurs façons différentes. Puisque dans le cas de Sylvain Perron, ce sont des normes, comme il est expliqué dans un message à Claire Mercier. Ce sont d'ailleurs des normes de deux types de normes différentes, puisque dans son texte écrit, c'était les normes théologiques, et à l'inverse, par différents textes, dans son exposé oral, ce sont plutôt des normes politiques, des normes étatiques. Mais dans les deux cas, ce sont les normes. Dans le cas de Serge Hervé, c'est dans la charge de comportement à trouver la comptabilité, la recherche de comportement des gens qui étudient, des marchands qui étudient. Il me semble que dans le cas de Pierre Gervais, au fond, il y a deux questions principales. La première question, c'est la question du crédit, c'est-à-dire. Alors c'est la question peut-être qui est déjà le plus étudiée par ailleurs, mais sur laquelle vous faites d'aller de l'avant, avec ces divers degrés du crédit, le crédit au sens général et le crédit financier, la différence aussi entre l'investissement et puis les paiements. Alors puisque je suis anti-guidant, certes, je ne vais pas faire des exposés sur les comptabilités antiques, je pense que j'aurais du mal, mais enfin, il y a des gens qui sont là-dessus. Mais la question de la confiance est une constante absolue pour la question de la confiance. Et par exemple, dans l'Antiquité, on insiste sans cesse sur le filet en latin, sur la gratia en latin, sur la fistis en grec, et Démosthène dit dans le discours numéro 36, paragraphe 44, en affaire, la confiance est le meilleur des capitaux. C'est fistis, c'est employé. Et à l'autre extrémité, je connais un nommé Gérard Minot qui est chef d'entreprise et qui a fait un livre sur la comptabilité à Rome, et qui m'a dit, moi qui étais chef d'entreprise, je peux vous dire que les historiens, et je parlais surtout des antiquisants, je pense que certainement, les historiens s'intéressent trop au crédit en tant qu'attribution de capitaux, mais ils ne se rendent pas compte que mon crédit en tant que chef d'entreprise, c'est quelque chose qui est antérieur à ça. C'est une relation qui me permet d'être convaincu que si je demande quelque chose, on me l'attribuera. Donc ça correspond tout à fait à ce que vous disiez, je pense. Donc il y a cette question du crédit. Et l'autre question, c'est la question de pourquoi, de la manière dont ils conçoivent leur comptabilité. Pourquoi est-ce qu'ils tiennent leur comptabilité d'une certaine façon et pas d'une autre, et qu'est-ce qu'il y a dans leur tête par rapport à cette comptabilité. Alors c'est sûrement la question la plus difficile des deux, et c'est aussi celle qui probablement vous intéresse le plus. Par rapport à elle qu'on a commencé à discuter avant la pause. Donc il me semble qu'il faudrait repartir de ces deux problèmes. Alors, à part ça, il y a évidemment beaucoup de questions précises. Sur des points précis, il y en a qui ont été évoqués avant la pause ou bien dans le couloir aussi. Bon, est-ce que vous êtes utile de faire une seule discussion pour les deux, qui mélange les deux, je ne sais pas. Pour ce que vous disiez, Sylvain Giron, moi j'ai surtout regardé l'article de 2005, beaucoup moins, assez peu l'autre article qu'il avait signalé. Et pour son intervention orale, évidemment, c'est tout à fait un autre... c'est en partie un autre domaine, mais c'est peut-être plus difficile, en tout cas pour moi, d'intervenir, parce que c'est toute une signification de la politique plus globale. Alors pour le texte écrit de 2005, j'ai été très intéressé. Un des problèmes, ce qui m'a beaucoup intéressé, une des questions, c'est celle de des régimes de normativité. C'est-à-dire le fait que quand on parle de normes, il y a plusieurs degrés de normes. Et dans ce cas précis, dans les théologiens, il y aurait les normes juridiques liées au pacte, les normes relevant du droit naturel, de la bienveillance naturelle, et les normes relevant de la du message chrétien. Alors quand on regarde ce qui se passe, là je vais parler un peu plus des périodes antérieures. Quand on regarde ce qui se passe dans la Rome païenne, il y a aussi au moins deux types de normes, et ça recoupe un peu ce que vous disiez pour Philippe Lebel. Il y a des pratiques qui sont condamnées, mais qui sont condamnées en principe, ou qui sont condamnées moralement, mais qui sont complètement pratiquées et sans aucune dissimulation. Et c'est la pratique du pré-intérêt. Il y a, dans le pré-intérêt, il y a des degrés du pré-intérêt qui sont alors complètement condamnés moralement et même condamnés par l'État. Alors c'est par exemple un taux libéral d'intérêt, général au-dessus de 12% par an. Les intérêts composés, la capitalisation des intérêts, et troisièmement, le fait que les intérêts impayés dépassent le capital. Ces trois choses sont trois points sur lesquels l'État intervient, et en tout cas, qui sont considérés, même si l'État n'intervient pas toujours, qui sont considérés comme absolument à réprouver totalement. Mais le pré-intérêt lui-même, qui est sans cesse condamné dans son principe, et avec des déclarations très fortes, par exemple Caton qui disait, quand on l'interrogeait, qu'en est-il du pré-intérêt pour la gestion du patrimoine, elle répondait, qu'en est-il de tuer un homme? Vous voyez, j'ai pas de déclaration comme ça. Particulièrement fort, mais à côté de ça, il est tout le temps pratiqué et tout le monde le sait. Et malgré la rareté des sources pour l'antiquité, nous avons une foultitude de d'allusions à l'état d'intérêt, qui prouve bien que ça n'était pas du tout dissimulé. Alors, toute personne de patrimoine, ça vient d'argent. Il y a aussi la dualité constante entre propriété de terre et prêt d'argent. Et ça, on peut lui expliquer que quand que quand l'Église chrétienne prend l'ampleur au 3e et 4e siècle, le prêt à intérêt n'est pas vraiment interdit. Et là, de nouveau, il y a une hiérarchie non pas seulement une hiérarchie des normes, mais une hétérogénéité des normes, une pluralité des normes, parce qu'il y a, comme je disais dans ton texte, il y a une condamnation chez tous les pères de l'Église, mais, vas-y, on voit que les voisins, mais les conciles du 4e siècle ne le condamnent pas pour les laïcs. Et sauf le concile d'Elvire qui ne s'applique qu'à la Tunisie libérée, et qui d'ailleurs menace de sanction dans un canon qui est considéré peut-être comme interposé. Donc c'est à partir du 5e siècle que les conciles commencent à dire il ne faut pas que les laïcs fassent interdit par les conciles. Donc le 5e siècle, c'est simplement dans des sermons. En fait, il y a une différence de normes émises par un théologien, comme disent certains ecclésiastiques, l'Église n'est pas lue par ses docteurs. C'est-à-dire certains théologiens peuvent dire des choses, mais que l'Église ne les suit pas. Et c'est le cas pour le prêt à intérêt. Et puis il y a une autre différence encore, c'est le moment où l'État prend en compte ça, et ça c'est beaucoup plus tard. Donc là, il y a toute une gestation qui, je crois, n'est pas étudiée peut-être autant qu'elle dit, mais pas autant qu'elle pourrait être. Alors pour l'époque que j'en suis à parler, c'est-à-dire le 3e siècle, j'avais une question. Oui, sur les normes et mentalités, puisque tu t'es élevé dans ta mesure contre les mots comme représentation et mentalité, il me semble tout de même qu'il est difficile derrière les normes de ne pas trouver, de ne pas chercher un état d'esprit. C'est-à-dire que ces normes, tout ce que tu dis sur le rapport entre le droit naturel et le taux d'intérêt et le prêt intérêt, avec cette façon de traquer l'intérêt partout, puisque l'intérêt est traqué non pas seulement dans le désir de gagner de l'argent, mais traqué aussi dans le fait de vouloir rendre plus à quelqu'un d'autre pour entrer dans la logique, disons, du don contre don. Et même, il est même traqué dans le fait de rendre la même chose à quelqu'un d'autre, chez certains auteurs. Cette façon de traquer l'intérêt, évidemment, est même de théologien, mais moi, il me semble qu'il est difficile de comprendre. De faire comprendre cette façon sans faire appel à une forme d'esprit qui refuse de manière très très forte l'intérêt. Quand on compare à la Rome antique, alors, ou aux périodes récentes, d'ailleurs, c'est quand même frappant. Parce que autant dans la Rome antique ou dans les périodes récentes, l'intérêt est en pratique complètement accepté. Autant, c'est pas le cas. Là. Le débénéficisme, ce qui est très intéressant, le débénéficisme par rapport à ce que je dis, c'est que, quoi qu'il inspire beaucoup ces gens-là, c'est que dans le bénéficisme, le don est toujours engagé par rapport au plein intérêt. C'est-à-dire que c'est presque contraint dans le débénéficisme, c'est quelque chose que le don, là, ce n'est pas le plein intérêt. Donc il y a une coupure très nette à l'inverse de ce qui se passe là, puisque dans ton contexte, le don finit par être suspect aussi. Mm-hmm.